J'espère que vous le croyez. Je sais qu'il s'occupe de moi. Dans chaque instant, oui, Dieu s'occupe de nous. Satan voudrait lui faire croire le contraire, n'est-ce pas? Mais Dieu, il est là et il s'occupe de nous. Alors aujourd'hui, la fête des mères. Et c'est vraiment une journée, on va mettre à part et le monde va dire, oui, bonne fête maman, va mettre l'accent sur les mères, ce qui dans un sens est convenable. C'est très bien, elle le mérite. J'ai peur que parfois on ne met que ce jour à part pour les mères et que le reste de l'année, on n'y pense pas de trop. Un peu comme d'autres fêtes, Noël, Pâques et autres, on a tendance à bien cibler quelques jours et puis le reste de la semaine et le reste de l'année, on se dit, voilà, pas trop d'impact. Et j'espère que ce ne sera pas le cas dans notre vie, dans la mienne, dans la vôtre. Et j'espère aussi que ce matin, les hommes seront tout aussi à l'écoute que les femmes. Parce que la fête des mères, on va parler des femmes et d'une femme en particulier. Mais ceci est pour tous. Donc pour chacun d'entre nous et à la fin du à la fin juin quand il y aura la fête des pères, ce sera l'inverse. Je prie pour que les femmes, les dames écoutent tout aussi attentivement que les hommes à ce moment-là. Mais aujourd'hui, nous allons passer quelques instants à examiner la vie d'une femme que vous connaissez certainement très bien dans Genèse chapitre 3. C'est là où nous allons commencer, Genèse chapitre 3. Et là, la seule femme au monde de qui il peut s'agir, puisque elle était la seule au monde à ce moment-là, c'est bien d'Ève. C'est Ève, et elle pourrait dire, oui, je suis seule au monde. Elle avait son mari, bien sûr, mais elle était la seule femme à ce moment-là. Et il paraît, lorsque nous lisons les Écritures, que jusqu'à ce moment, elle n'avait pas encore d'enfant. C'est-à-dire que là, il y a Adam, il y a Ève, ils sont seuls dans le jardin que Dieu a créé, dans cette merveilleuse création que Dieu a mis en place. Et les deux premiers chapitres avec la création, les deux premiers chapitres de la Genèse, avec la création, Dieu nous raconte comment il a créé l'homme de la poussière de la terre, et puis qu'il a créé la femme à partir de l'homme. Et déjà, n'est-ce pas quelque chose d'extrêmement beau? Tellement extraordinaire que Dieu, qui aurait pu tout faire, qui aurait pu agir différemment, Dieu n'était pas obligé de créer la femme à partir de l'homme. Il aurait très bien pu créer la femme à partir de la poussière, tout comme il a fait l'homme. Mais non, il choisit particulièrement pour qu'il y ait ce lien, cette relation, même cette intimité entre l'homme et la femme, et il va créer la femme à partir de l'homme, pour qu'ils soient unis tous les deux. Et ils vivaient en parfaite harmonie à la fois avec Dieu, vivaient en parfaite harmonie entre eux. Imaginez-vous, avant le chapitre 3 de la Genèse, aucun dispute entre Adam et Ève. Rien du tout. Aucun malentendu, aucune rancune, aucun mauvais sentiment. Il ne disait jamais, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas fait, ou pourquoi est-ce que tu as fait, pourquoi est-ce que tu as dit, pourquoi est-ce que tu n'as pas dit. Rien de tout cela. Ils étaient en parfaite harmonie avec Dieu, entre eux, tout percé à merveille. Et intervient le chapitre 3, que nous connaissons bien, que même les gens du monde vont connaître de loin, la chute. Et le premier verset du chapitre 1 nous introduit ce personnage, le serpent. Et nous savons que c'est Satan, notre ennemi acharné, surtout l'ennemi de Dieu, et c'est lui qui va tenter Ève. Et dans cette histoire, nous voyons Ève séduit, et nous allons examiner sa séduction, et puis les conséquences de cela sur elle-même, pour Adam, et pour toute l'humanité. Et puis, lorsque nous arriverons au chapitre 4, ben, c'est là où nous allons voir quelque chose vraiment d'extraordinaire pour nous aujourd'hui. Alors, commençons avec Genèse chapitre 3. Permettez-moi de lire les 6 premiers versets, après quoi nous placerons ces moments entre les mains de Dieu par la prière. Genèse chapitre 3, les 6 premiers versets. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon, à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Prions. Oui, Seigneur, nous voulons remettre ces moments entre tes mains, que tu guides notre pensée, que tu guides nos réflexions, et Seigneur, que tu touches notre cœur avec ta parole, que nous soyons convaincus de ce que tu as pour nous, et que tu puisses, par ton Saint-Esprit, produire des changements dans notre vie, des changements durables pour ta gloire. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Alors ici, nous avons Ève, et comme nous voyons cette histoire, et nous la lisons, si nous ne faisons pas attention, et peut-être c'est arrivé à chacun d'entre nous, je sais que moi j'étais dans cette optique par moment, nous avons tendance à critiquer Ève, en disant, mais si seulement elle avait agi différemment, le monde serait complètement différent aujourd'hui que ce que nous connaissons actuellement. Si seulement elle avait fait ceci ou cela. Si seulement elle n'avait pas fait. Et nous critiquons Ève en disant, mais elle aurait dû agir différemment. Et même si nous savons que ce n'est pas vrai, parfois nous pourrions même être amenés à penser, mais si j'étais à sa place, j'aurais agi différemment. Et la réalité de la chose, c'est que à sa place, chacun d'entre nous, sans exception, aurait fait exactement la même chose. Et, qui sait, peut-être nous serions allés plus loin. Mais nous avons tendance à critiquer Ève. Mais regardons un peu cette histoire. Parce que déjà, le verset 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et nous comprenons, à travers d'autres passages, notamment dans les Évangiles et même en Apocalypse, que Satan travaillait à travers ce serpent, que ce serpent était l'instrument que Satan, lui, a utilisé pour séduire Ève. Et peut-être nous avons tendance à minimiser cela, mais Ève était face à la tentation directe de la part de Satan. Et à ce moment-là, elle n'est pas excusable. Ce qu'elle a fait est totalement, dans ce sens, inexcusable, mais on peut commencer à comprendre, voire compatir avec elle, parce que même si elle aurait pu résister à Satan, et qu'elle aurait dû, ce n'était pas chose facile. On lit cette histoire et on peut se dire, mais tout ce qu'elle avait à faire, c'était de ne pas l'écouter. Oui, mais, comme j'ai dit, aurions-nous fait différemment? Serions-nous restés là, en train d'écouter ce serpent? Peut-être elle était intriguée par le fait que le serpent parle. La Bible ne nous le relève pas, mais imaginez-vous, un animal qui parle. Les occasions sont rares, les exemples sont rares dans la Bible. Il y a le serpent, il y a l'âne qui va parler à Balaam, quelques histoires comme cela, mais c'est très rare. Et imaginez-vous, un animal se met à parler, cela vous intrigue? Je pense que oui. Est-ce que vous allez écouter ce que l'animal a à dire? Je pense que oui. Alors, Ève, ici, c'est vrai, elle aurait dû faire un autre choix. Elle aurait pu par la grâce de Dieu. N'oublions pas, Dieu, elle avait cette communion parfaite avec lui. Elle aurait pu faire un autre choix. Mais en même temps, reconnaissons que Ève, ici, était face au plus grand manipulateur de tous les temps. Celui que Jésus-Christ lui-même va appeler le Père des mensonges. Celui dont le seul but est de détruire et contrecarrer le plan de Dieu. Et elle était là, et lorsque nous nous souvenons de cela, nous sommes tristes qu'elle ait fait le choix qu'elle a fait. Mais dans un sens, ben, on compatit. On n'est pas trop surpris, parce qu'elle était face quand même à un ennemi acharné, un ennemi rusé, un ennemi puissant. Encore une fois, comme j'ai dit, cela ne l'excuse pas. Non. Mais on commence à compatir, à comprendre. Et de nos jours, nous pouvons nous identifier à Ève, dans ce sens. Parce qu'aujourd'hui, n'est-il pas vrai qu'en tant que chrétien, notre ennemi, tout comme nous le montre Pierre, le rugissant, la réalité, c'est que Satan est présent. Satan a joué ce grand jeu de faire croire aux hommes qu'il est ce petit bonhomme en rouge, avec une queue fourchue, avec la fourche, et puis voilà, comme on dit, le petit malin. Et bon, il est presque, on le représente presque comme mignon. Il fait pas trop de mal, il fait quelques bêtises, mais c'est pas si grave que cela, alors que la réalité est tout autre. Satan se déguise en ange de lumière, Satan séduit, Satan ment, Satan cherche à détruire et Satan cherche à tenter et faire trébucher les chrétiens. Et la réalité, c'est que tout comme Ève, qui faisait face à Satan, aujourd'hui, pas à chaque instant, comprenons-le bien, Satan n'est pas partout à la fois, mais il arrive que les chrétiens soient confrontés à des attaques directes de Satan. C'est une réalité. Et parfois, nous succombons. Parfois, nous tombons. Nous ne devrions pas. Nous avons toutes les ressources de la parole de Dieu. Nous avons tous les exemples de victoire, à la fois dans la parole de Dieu, et puis de frères et sœurs en Christ, à travers les siècles, qui ont vaincu, qui ont tenu bon. Mais il est vrai, parfois, nous succombons. Et nous cédons à la tentation, nous péchons contre Dieu, alors que nous savons très bien ce que Dieu veut de nous. Nous savons très bien même comment surmonter cela. Mais nous cédons. Et dans ce sens, nous sommes comme Ève. Et à ce moment-là, nous compatissons et peut-être nous serons un peu moins durs avec elle. Alors, elle fait face au plus grand manipulateur de tous les temps, elle fait face directement à Satan. Et nous savons les armes de Satan, le mensonge, des demi-vérités. C'est là où, au verset 4, Satan dit, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme... » Et là, certaines traductions ont « Dieu », comme nous avons devant nous, c'est plus « des dieux ». Vous serez identique à Dieu, vous serez au même niveau, connaissant le bien et le mal. Et ce que Satan ici explique, c'est une demi-vérité. Il dit une part de vérité, oui, leurs yeux allaient s'ouvrir. Ils allaient connaître la différence entre le bien et le mal. Et il est vrai, ils n'allaient pas mourir physiquement sur le champ, mais ils allaient commencer à mourir spirituellement, séparation avec Dieu. Et Satan dit une demi-vérité. Et tout comme Ève, nous sommes confrontés de la part de Satan, ou peut-être de nous-mêmes, ou de quelqu'un d'autre, nous sommes confrontés parfois à des demi-vérités, des mensonges. Et Ève, qui aurait dû savoir la différence, elle avait entendu de la bouche même de Dieu. Et là, Satan sème le doute, il dit une demi-vérité, et Ève le croit. Donc, elle est là, elle est face direct au Satan, à Satan. Elle est devant cette tentation. Et parfois, nous nous trouvons dans la même situation. Et Ève, qui fait le mauvais choix de rester, d'écouter, de commencer à réfléchir, ah oui, c'est vrai. Peut-être les conséquences ne seront pas aussi graves. Peut-être Dieu ne m'a pas tout dit. Peut-être Dieu me cache quelque chose. Peut-être Dieu ne veut pas tout le bien pour moi. Ces pensées qui commençaient à venir dans l'esprit d'Ève, sûrement. Et ces mêmes pensées qui peuvent venir dans notre esprit. Et à ce moment-là, qu'est-ce que nous allons faire? Comme Ève, allons-nous continuer à nourrir ces pensées en nous? Continuer à écouter les mensonges de Satan, ces demi-vérités? Ou est-ce que nous allons tout de suite nous réfugier dans la parole de Dieu, tout de suite retourner vers Dieu? C'est à ce moment précis de la tentation où nous devons agir. Et Ève, qui malheureusement nous montre un mauvais exemple, jusque-là, jusqu'au verset 5, elle n'a pas encore péché. Elle est devant la tentation. Elle a un choix à faire. Elle n'a pas encore péché. Et parfois, nous nous trouvons au même endroit. Nous sommes confrontés avec une situation, une tentation. Nous n'avons pas encore péché, parce que la tentation en elle-même n'est pas un péché, qu'on soit clair là-dessus. Mais ici, elle fait le mauvais choix. Quel choix allons-nous nous faire devant la tentation? Allons-nous agir comme Ève ou comme Dieu voudrait que nous agissions? Et au verset 6, elle va nourrir ce sentiment, ces pensées que Satan met dans son esprit. Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Alors, pour que cela soit vrai, elle était au milieu du jardin. Elle était au moins assez près de l'arbre pour pouvoir le voir, le contempler. Et elle commençait à réfléchir. Ce n'était pas simplement un regard en passant, un regard furtif où on regarde et puis on passe à autre chose. Non, elle contemplait, elle laissait ses regards sur cet arbre, surtout sur son fruit, et elle a pu constater que, effectivement, à ses yeux, cet arbre était bon, le fruit agréable. Et puis, aussi, elle commence à se dire, suite à ce que Satan lui a mis dans la pensée, que le fruit de cet arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Là, Satan lui dit, tu sauras la différence entre le bien et le mal. Et elle dit, ah, je peux avoir encore plus d'intelligence, je peux accéder à autre chose. Et c'est comme si elle disait en elle-même, ce que Dieu me donne n'est pas suffisant. Et combien de fois avons-nous cette réflexion? Nous nous arrêtons sur une pensée, sur un acte, sur une image, sur quelque chose que quelqu'un dit. Et nous commençons à méditer, à réfléchir là-dessus. Comme on dit, on commence à tourner ça dans notre esprit et on commence à rationaliser, on commence à justifier quelque chose qui, en réalité, n'est pas justifiable. Et elle était là, près de l'arbre, assez près pour le regarder. Elle apparemment a passé du temps devant cet arbre pour réfléchir dans ses pensées, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit. Et c'est là où elle décide de passer à l'action. Elle prit de son fruit et elle en mangea. Et je ne sais pas vous, mais je m'imagine un peu la scène. Et imaginez-vous si vous étiez là. Et on voit Ève près de cet arbre, on voit un peu son esprit réfléchir. Et puis elle s'avance vers l'arbre. C'est un peu comme dans ces films où quelqu'un va pour ouvrir une porte et vous savez qu'il y a quelque chose de terrible derrière. Vous entendez la musique dans le film et c'est vous criez à la télé, n'ouvrez pas la porte! Et ici, on lit cela et on se dit dans son esprit, peut-être qu'on le dit à haute voix, mais ne mange pas le fruit! n'est-ce pas? Et là, elle va le prendre, elle va le manger. Alors, il est vrai, très souvent, on représente ce fruit comme une pomme, alors que c'était certainement pas une pomme. C'était un fruit, nous ne savons pas quel type de fruit, inutile d'essayer de trouver quel type de fruit c'est. D'ailleurs, il y a certains groupes un peu bizarres qui disent parce que, enfin, ils croient que c'était une pomme, ils ne mangent pas de pomme, puisque bah, la pomme serait maudite à cause de cela. Je vous assure, des choses bizarres que les gens croient, mais rassurez-vous, ce n'était probablement pas une pomme, la Bible ne nous dit pas exactement quel fruit, mais elle va le prendre, elle va le manger. Et comme je l'ai dit, on est là et on se dit, mais ne le fais pas! Non! Je connais la suite, je sais ce qui va se passer. Et en même temps, si nous ramenons les choses à notre époque, à notre vie personnelle, combien de fois est-ce que nous réfléchissons sur nos actions, sur ce que Dieu a déjà dit? Il nous a prévenus. Nous avons sa parole. Et est-ce que cela fait que ben nous nous secouons parfois en disant « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Par la parole de Dieu, d'examiner notre vie. Est-ce que nous laissons peut-être d'autres le faire? Et tout comme Ève, ben, parfois nous agissons en insensé. Nous agissons contre toute logique. Nous agissons parfois contre la parole de Dieu. Ne sommes-nous pas, parfois, comme Ève, dans ce sens? Et puis, à la fin du verset 5, on va parler d'Adam. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il est intéressant qu'au verset 5, Adam intervient. Il n'intervient pas avant. Et il semble que Adam n'était pas présent lorsque Ève a été séduite par le serpent. Et ici, au verset 5, verset 6, il semble que ici, Adam ne soit pas venu que par la suite. Que Adam, dans ce sens, était occupé ailleurs, en faisant quoi, nous ne savons pas. Et que Ève ne bénéficiait pas du soutien et, on va dire, du réconfort, de l'aide qu'aurait pu apporter Adam en ce moment. Et c'est quelque chose de très important pour nous. Nous ne savons pas, mais nous pouvons peut-être essayer de penser, imaginer, si Adam avait été là, et si Adam, lui, avait aidé Ève, lui avait rappelé ce que Dieu avait dit au moment où le serpent a tenté Ève, est-ce que les choses seraient passées différemment? Peut-être, peut-être pas. Parce qu'il va quand même céder à la tentation quand Ève va lui présenter le fruit. Mais ici, Adam, Ève, cèdent. Parce qu'à un moment donné, bon, ils étaient séparés. Et nous savons que lorsqu'on est tout seul, lorsqu'on est séparé, si on est isolé, à ce moment-là, nous sommes vulnérables. Nous sommes plus forts lorsque nous sommes ensemble. Et simplement deux personnes peuvent s'encourager. Mais plus on est nombreux, plus on peut s'encourager. Et comme le livre d'Ecclésiaste dit, malheur à celui qui tombe quand il est tout seul. Il n'y a personne pour le relever. Mais quand on est deux ou plusieurs, là on peut s'encourager, on peut s'aider. Et quand un est faible, l'autre peut soutenir. Et celui qui soutient, ben, à son tour, quand il sera faible, il peut être soutenu. Et Ève, ici, apparemment, ben, n'a pas cherché l'aide de son mari, ne l'a pas écouté, manifestement. Et dans ce verset 6, Adam se laisse séduire aussi par Ève. Et nous voyons, dans ces six premiers versets, les ruses de Satan, cette petite pensée qu'il met dans l'esprit d'Ève, nous voyons comment Ève réagit. Et au lieu de critiquer et de condamner durement Ève, il faut regarder à notre propre vie. Et aujourd'hui, 21e siècle, pratiquement 6000 ans plus tard, au moins, si c'est pas plus, nous sommes confrontés aux mêmes situations. Nous subissons la tentation. Et à ce moment-là, que faisons-nous? Isolons-nous? Est-ce que on cherche auprès de Dieu le soutien qu'il faut? Est-ce qu'on cherche auprès des frères et sœurs l'aide, le réconfort qu'il faut? Ou est-ce que nous essayons de confronter par nous-mêmes les attaques de Satan? Et je vous dis tout de suite, on va échouer. Nous sommes incapables par nous-mêmes de vaincre Satan. Le Saint-Esprit en nous, pour lui, ce n'est rien. Mais si on ne cherche pas l'aide du Saint-Esprit, on est voué à l'échec. Tout comme Ève, nous allons tomber. Et les conséquences peuvent être désastreuses. Nous n'allons pas le temps prendre le temps ce matin de tout examiner. Mais à partir du verset 7, jusqu'à la fin de ce chapitre, nous voyons les conséquences de ces choix désastreux à la fois d'Ève et d'Adam. Et que Dieu va les juger. Parce que Dieu est juste et saint, il doit juger le péché, nous le savons. Et les conséquences étaient dramatiques, moi je dirais mondiales, puisque les conséquences touchent chaque personne qui est née, nous-mêmes inclus. Et le péché a été introduit dans le monde par le biais d'Adam et Ève. Et nous pouvons leur en vouloir en disant qu'est-ce que notre vie serait bien aujourd'hui s'ils n'avaient pas péché. Mais souvenons-nous encore, nous aurions fait pareil. Et les conséquences de leur péché étaient dramatiques sur toute l'humanité. Et peut-être notre péché ne touchera pas toute l'humanité. Mais n'oublions jamais que notre péché comporte des conséquences. Et tout comme Ève, qui, lorsqu'elle était confrontée à cette tentation, ne pensait pas aux conséquences. Je suis certain qu'elle était loin d'imaginer qu'elle introduirait, par son péché, le péché sur toute l'humanité. Que jusqu'aujourd'hui, nous serions encore en train de subir le péché, ses effets, sur nous-mêmes, sur notre corps, sur la création. Ève, ne réfléchissez pas du tout à cela, j'en suis convaincu. Et pourtant, cela n'a pas minimisé les effets, les conséquences. Et lorsque nous péchons, il est probable que nous ne réfléchissons pas toujours aux conséquences. Parfois, nous réfléchissons aux conséquences et on se dit, c'est pas trop grave. Et si, c'est extrêmement grave. Mais parfois, nous péchons, nous nous éloignons de Dieu et nous ne réfléchissons pas aux conséquences. Et Adam et Ève, ici, vont subir des conséquences. Déjà pour eux, ils commençaient à mourir à partir de cet instant, leur communion avec Dieu interrompue, et puis toutes les conséquences que Dieu impose par la suite, travail dur pour Adam, douleur de l'enfantement pour Ève, les relations tendues, frustration entre mari, femme, l'orgueil qui est introduit, l'irritation, toutes ces choses ont été introduites à ce moment de péché. Et à partir du verset 7, comme j'ai dit, jusqu'à la fin du chapitre, nous voyons toutes ces conséquences. Et il s'agit pour nous, si nous sommes confrontés à la tentation, si nous sommes dans une situation où soit on se décourage, soit on risque de s'égarer loin de Dieu, on risque de tomber, à ce moment-là, de penser aux conséquences. Les conséquences pour nous, je me souviens en 2003, j'étais en première à l'école et c'était au mois de février, je m'en souviens très bien, autour de de la Saint-Valentin, tous les jeunes de l'église se réunissaient chaque année pour faire un petit banquet, une petite fête. Et on s'habillait bien et tout. Et j'appréciais chaque année. Et cette année-là, ben, j'étais tombé malade. Et puis, quelques jours avant, mais je tenais tellement à y aller que j'ai dit à ma mère, ben, je suis prêt à subir des conséquences. C'est exactement ce que j'ai dit. Je suis prêt à subir les conséquences, même si je tombe encore malade, mais je veux y aller quand même, parce que moi je trouvais que j'étais pas si malade que ça. Donc j'ai dit, je suis prêt à subir ces conséquences. Je savais pas du tout ce que cela voulait dire, parce que en fait ce n'était pas parce que je suis allé, mais en fait, j'ai passé une soirée terrible. J'ai pas du tout apprécié. Je me souviens pratiquement de rien de ce qui s'était passé. Et par la suite, j'ai passé une semaine à l'hôpital, dont 5 jours aux soins intensifs. Donc, j'ai dit, j'étais prêt à subir les conséquences. Je me rendais pas compte exactement de ce que cela voulait dire. Si j'avais su, peut-être je serais resté à la maison. Peut-être les choses seraient passées différemment. Et Ève, de même. Et pour nous, aujourd'hui, parfois nous disons, ben, je suis prêt à subir les conséquences. Ah bon? Si nous savions vraiment les conséquences, on fuirait loin de toute tentation, de tout péché. Et les conséquences, non seulement pour nous, parce que Adam et Ève ont directement reçu des conséquences pour leur péché, mais les conséquences sur les autres. Toute la création a été affectée par le choix de deux individus. Vous vous rendez compte? Deux individus ont péché et c'est toute la création et même toute l'humanité qui en souffre jusqu'aujourd'hui. D'un côté, cela montre la gravité du péché et cela montre que les conséquences de notre péché peuvent aller bien au-delà de nous-mêmes. Bien sûr, cela va nous affecter, mais cela affecte notre famille. Cela affecte nos amis. Cela affecte même l'Église. Le péché de quelqu'un dans l'Église peut affecter l'Église. Et il s'agit pour nous, non comme Ève, qui ne réfléchissait pas trop aux conséquences, il s'agit pour nous de réfléchir aux conséquences. Et dans le chapitre 3, ben, nous voyons que Ève n'est pas du tout un exemple à imiter. C'est une maman qu'on doit dire... Ben, tout ce qu'elle fait, ben, il faut faire le contraire. Et pourtant, nous arrivons au chapitre 4. Nous arrivons au chapitre 4, et c'est là où, pendant ces quelques minutes qui restent, nous voyons Ève comme quelqu'un, maintenant, qui est à imiter. Si au chapitre 3, elle ne doit pas être imitée, il faut faire tout le contraire, en fait, de ce qu'elle fait. Ben, regardez, chapitre 3, déjà verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Cain. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Alors, laissons de côté pendant quelques instants l'histoire entre Cain et Abel, qui est tellement triste, qui montre combien l'homme va dans le péché si rapidement. Et jusqu'où il peut aller, c'est-à-dire jusqu'à tuer son propre frère. Mais laissons cela de côté pendant quelques instants, parce que ici au verset 1, Adam, Ève vont avoir cet enfant, et c'est ce que Ève dit à la fin du verset 1, « J'ai acquis un homme de par l'Éternel. » Et pourtant, souvenons-nous du chapitre 3. Elle avait écouté le serpent. Elle avait réfléchi au péché jusqu'au point à commettre le péché. Elle avait accusé son mari. Elle avait accusé même le serpent. Dieu est cherché par tous les moyens de s'échapper. Et cette femme du chapitre 3, on pourrait dire, mais là, elle est partie loin de Dieu. Il n'y a pas d'espérance pour elle. Elle est tombée dans le péché. Mais là, regardez ce verset. Elle comprend quand même que cet enfant qu'elle a reçu vient de Dieu. Elle avait quand même sa relation avec Dieu. Et c'est quelque chose d'extraordinaire que Ève, malgré son péché, malgré la gravité de ce qu'elle fait, malgré même les conséquences. Parce que souvenons-nous, le chapitre précédent, Dieu lui avait dit que c'est dans la douleur qu'elle enfanterait. Et lorsque Caïn et ensuite Abel sont nés, c'était des naissances difficiles. Parce que Dieu avait décidé ainsi, mais elle reconnaît quand même que c'est Dieu qui lui a donné ça. Et elle reconnaît que Dieu ne l'a pas abandonné. Oui, Dieu les a chassés du jardin. Oui, Dieu était obligé de les juger. Et pourtant, Dieu ne les a pas abandonnés. Et Ève en est convaincue. Et elle va dire que son enfant vient de Dieu, ce qui était entièrement le cas. Et puis, à la fin de ce chapitre 4, verset 25, nous retrouvons maintenant, après la mort d'Abel, le jugement de Dieu contre Caïn. Verset 25, Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, et regardez bien, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Elle reconnaît que ce troisième fils vient de la part de Dieu. Oui, le mal est là. Son propre péché, le péché même des autres, elle reconnaît que Caïn a péché, tué son frère, et pourtant, Dieu ne les abandonne toujours pas. Dieu n'a pas dit, j'en ai assez. Ce peuple continue de s'éloigner de moi. Ces gens, malgré tout ce que j'ai fait pour eux, ils ne m'obéissent pas, ils ne me suivent pas. Non, Dieu continue de s'occuper d'eux. Et Ève en est consciente. Et quel exemple pour nous. Bien sûr, dans sa vie, il y a des choses à éviter, à ne pas du tout imiter. De reconnaître Ève a mal agi. Oui. Mais en même temps, voici quelque chose à imiter dans sa vie. Que nous soyons tous comme Ève dans ce sens, où nous reconnaissons que chaque chose vient de la part de Dieu. Que nous reconnaissons que Dieu ne nous abandonne pas. Parfois, nous pouvons tomber très bas. Nous pouvons nous éloigner de Dieu. Nous écoutons les mensonges de Satan et de ce monde. Nous nous trompons nous-mêmes. Et ce n'est pas pour autant que Dieu va nous abandonner. Satan voudrait nous faire croire que Dieu le fera. Satan voudrait nous faire croire que nous sommes allés trop loin. Mais Ève nous montre que nous devons garder cette espérance en Dieu. Qu'il est là. Lui, il ne change pas. Et l'amour qu'il a manifesté tout au début lorsqu'il a créé Adam et Ève était le même amour qu'il a manifesté lorsqu'il a permis à Adam et Ève d'avoir ses enfants. Caïn, Abel, Seth, tous les autres enfants qu'ils ont eus par la suite. Et Ève reconnaît que ces choses venaient de la part de Dieu. Et que dans ce sens, c'était une grâce de Dieu. Et de se poser la question, est-ce que je ressemble à Ève comme elle est dans le chapitre 3? Et si c'est le cas, j'ai besoin de changer. J'ai besoin de me repentir devant Dieu. Ou bien, est-ce que je suis comme Ève dans le chapitre 4, qui regarde vers Dieu, qui reconnaît que toute chose vient de sa main, et qui lui fait confiance, qui entretient même cette relation avec Dieu, qui lui obéit apparemment? De se poser cette question, surtout en ce jour où nous célébrons les mères, les mamans, de savoir, de se poser la question, quel exemple est-ce que je vais prendre? Est-ce que je serai comme l'Ève du chapitre 3, qui ne se soucie pas de Dieu, qui suit son propre chemin, ou est-ce que je serai comme Ève dans le chapitre 4 de la Genèse? Le choix est devant nous. Et oui, nous critiquons Ève, et pour cause, elle a mal agi. mais compatissons. Sachons reconnaître sa confiance en Dieu, son attachement même à Dieu par la suite, et surtout dans notre propre vie, ben, imitons, et vous le savez, Ève dans ce qu'elle fait au chapitre 4. C'est ce que Dieu veut voir en nous, et c'est le thème de toute la Bible, cette confiance en Dieu. Dieu, il est digne de confiance, Dieu n'abandonne pas, Dieu pourvoit, Dieu dirige. Alors, pourquoi ne pas faire ce choix de lui rester fidèle? C'est le choix le plus logique. Et alors que nous pensons aux mères, pensons à Ève, non pas dans un sens négatif, mais relevons ce côté positif, son attachement à Dieu, sa confiance en Dieu, et imitons cela. C'est pas simplement pour les mamans, pour chaque chrétien, pour chaque personne. Cette confiance en Dieu, cette reconnaissance de Dieu dans notre vie. Que Dieu puisse voir cela dans notre vie pour sa gloire. Prions. Oui, Seigneur, nous nous tournons vers toi et nous te louons que tu nous as donné ce récit dans ta parole. Et nous reconnaissons notre besoin de ta grâce pour agir comme toi tu voudrais, pour réfléchir, pour parler aussi comme toi. Et Seigneur, aide-nous à faire la part des choses, à imiter cette confiance, cette relation d'Ève au chapitre 4. Et Seigneur, pardonne-nous pour nos manquements, pardonne-nous pour notre péché, notre éloignement de toi. Nous te louons que tu es le Dieu qui pardonne à chaque instant, qui ne te lasse pas d'accorder ta grâce, ta miséricorde, ton pardon. Et Seigneur, que tu touches le cœur de chacun d'entre nous, que nous ne restions pas indifférents face à cet exemple d'Ève, mais que nous changions, Seigneur, par ta grâce, que cette parole puissante puisse continuer de transformer notre vie, et que cela soit pour ton honneur et pour ta gloire. C'est en ton nom que nous prions. Amen.